Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Et cette semaine, les clés de l'écho nous sont données par Bijan Valilou. Salut Bijan.
Salut Baptiste.
Tu es doctorant en économie à l'université de Bordeaux. Et cette semaine, tu veux nous parler de la financiarisation. Là, je recommence. La financiarisation, une des facettes de la dépendance des pays en développement.
Exactement. Il y a eu quelques rapports en 2022 et 2023, notamment publiés par l'ONG Reclaim Finance, qui est une ONG française, et qui établissait le rôle des banques françaises dans les projets d'extraction de produits fossiles partout dans le monde. Donc ces banques françaises telles que BNP Paribas, le Crédit Agricole ou la Société Générale ne financent pas directement les projets, mais prêtent aux entreprises comme Total Energy ou BP, qui sont donc des entreprises d'extraction de produits fossiles. Et ces entreprises sont engagées dans ces futurs projets qui sont aussi appelés des bombes carbone. Donc pourquoi bombe carbone ? Parce que l'exploitation de ces gisements conduira à des émissions de carbone si élevées qu'elles compromettraient à elles seules les efforts en matière de limitation du réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés. Comment les banques françaises peuvent-elles financer ces projets ? Tout en déclarant publiquement la fin de leur soutien au secteur fossile, parce que l'architecture financière leur permet de ne pas financer directement les projets, mais directement les entreprises d'extraction. Donc indirectement, elles financent l'extraction dans les champs gaziers et pétroliers. Et ce n'est que la partie émergée de ce lien entre finance et extraction.
Est-ce que ce lien entre finance et extraction, il est nouveau, Bijan ?
Non, pas du tout, parce que la finance a toujours fait partie du paysage de l'impérialisme. L'Empire colonial français a par exemple créé en 1853 la Banque du Sénégal, qui deviendra plus tard plus large que juste la région du Sénégal, mais deviendra la Banque de l'Afrique occidentale en 1901. Et donc cette banque accordait des crédits liés aux produits d'exportation vers la métropole. En 1949, la Banque de l'Afrique occidentale dédiait déjà 92% de ses ressources au financement des activités d'importation et d'exportation, donc à comprendre entre parenthèses vers la métropole. Et à partir de 1939, des banques commerciales françaises comme le Crédit Lyonnais et la Société Générale qu'on retrouve ici s'installaient au Sénégal en privilégiant les régions côtières plutôt que les régions intérieures, donc en installant déjà une certaine forme d'inégalité. Il existe donc un lien historique entre banque et financement des activités d'exportation des produits agricoles et miniers vers la métropole.
Quel est l'état actuel de la finance dans les pays en développement ?
Alors aujourd'hui, ce lien entre finance et extraction est devenu plus large. De manière générale, la finance contraint les pays du Sud dans des sentiers d'extractivisme. Et donc, les récentes décennies, les pays du Sud global se sont intégrés de plus en plus dans la mondialisation financière. Après la crise financière de 2008, un nouveau cycle de boom et de contraction financière s'est lancé. De nombreux acteurs privés ont adopté des nouvelles stratégies d'investissement. Et donc ces stratégies d'investissement se lançaient de plus en plus à la conquête des pays à bas revenus et à revenus intermédiaires. Par exemple, la banque JP Morgan a lancé en 2011 son indice Next Generation, EMBI Next Gen, suivant les obligations souveraines de ces pays. Après cela, une vingtaine des pays à bas revenus et à revenus intermédiaires ont émis pour la première fois des obligations, et donc ici c'était des obligations libellées en devises étrangères. Après la crise financière de 2008, les marchés financiers internationaux ont évolué dans des environnements qui étaient à bas taux d'intérêt. Donc il était peu intéressant pour les investisseurs de continuer à placer leurs capitaux dans les pays du Nord. L'appétit pour le risque des investisseurs a augmenté. Donc, à la recherche de rendements plus élevés, ces derniers se sont engagés massivement dans les pays émergents et d'autres pays à bas revenus.
Quelle est la caractéristique de cette financiarisation dans les pays du Sud ?
La financiarisation dans les pays du Sud est subordonnée à des intérêts et des dynamiques extérieures à ces pays. C'est pour ça qu'on peut parler encore de dépendance. Comme dit précédemment, les dynamiques de financiarisation dépendent de logiques extérieures à ces pays, comme la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, qu'on a connu après la crise de 2008, et les recherches de rendements plus élevés des investisseurs lorsqu'ils souhaitent prendre plus de risques. Et ce n'est pas toujours le cas. Les pays du Sud sont donc soumis à des logiques extérieures à eux-mêmes et donc à une instabilité plus forte des mouvements financiers, des mouvements de capitaux. Dès que la conjoncture économique se retourne, les investisseurs recherchent la sécurité et donc retournent vers le Nord. Les flux de capitaux vers les pays en développement s'arrêtent et c'est ce qu'on a connu après la crise de la Covid-19. Soumis à un retournement de leur conjoncture, 4 pays en développement ont fait défaut sur leurs dettes. Donc on parlait du Sri Lanka, du Ghana, de la Zambie et du Suriname.
En quoi la place subordonnée des pays du Sud dans la mondialisation financière, elle les pousse à intensifier les logiques d'extraction de matières premières, Bijan ?
Alors, comme au siècle précédent, donc au siècle décolonisation et de l'impérialisme dur, la finance est déconnectée des besoins productifs nationaux des pays du Sud. Les pays du Sud sont soumis, donc les pays du Sud, les pays en développement, sont soumis à une discipline financière assez forte, qui les conforte dans leur rôle d'exportateurs de matières premières. Soumis à tout moment à un arrêt des flux financiers ou des flux de capitaux, les pays du Sud développent des stratégies court-termistes. Donc, c'est des stratégies d'exportation de produits agricoles et miniers. La volatilité des taux de change et la vulnérabilité de leur dette publique les empêchent de mener des politiques de diversification et d'industrialisation, donc des politiques de développement à long terme. La finance, centrée sur des logiques de court terme, les pousse à suivre ces stratégies d'extraction et d'exploitation de leurs ressources naturelles. Donc, pour résumer, les pays du Sud contribuent à l'exploitation des ressources naturelles, donc comme les projets de bombe carbone, reçoivent inégalement les gains économiques tirés de cet échange et ont la promesse d'être le plus exposé aux impacts négatifs du réchauffement climatique. Face aux dangers de la finance, les pays du Sud peuvent avoir comme agenda la réintroduction du contrôle des capitaux, la fin de l'obsession des banques centrales nationales pour l'inflation et la restructuration de l'architecture financière en fonction de leurs besoins de long terme.
Merci beaucoup Bijan pour cette chronique une nouvelle fois très passionnante. Et on te remercie puisque c'est ta dernière chronique pour les Clés de l'Écho. Merci beaucoup d'avoir fait cette participation pour les Clés de l'Écho.
Merci beaucoup Baptiste.